Il va être question dans cette rencontre, Lise, de féminisme et une question. Pourquoi les féministes se taisent-elles sur la guerre entre Israël et le Hamas? Je vous avoue que ça m'avait complètement échappé. Je vous laisse le soin d'en parler avec notre invité.
Eh bien, notre invitée qui est à elle, ça ne lui a pas échappé du tout, Didier. Elle s'appelle Sarah Baruch et elle est auteure d'un livre dont on a déjà parlé à l'antenne et qui est magnifique, qui s'appelle « 125 et des milliers » et qui parle de féminicide. Sarah, pourquoi est-ce que les féministes qu'on entendait énormément à peu près sur tous les dossiers ces derniers temps se taisent-elles sur la guerre entre Israël et le Hamas?
Parce que les Juifs sont des grands méchants. Dans leur grille de pensée, les sionistes sont des grands méchants dans leur manière de percevoir le monde, totalement binaire entre les oppresseurs et les opprimés, et qu'elles n'ont aucune finalement analyse humaine de la situation, ce que je trouve absolument regrettable.
Bien sûr.
C'est-à-dire que pour elles, la domination, signe du patriarcat, est la même domination qui a colonisé les peuples. En fait, décontente, selon elles, d'imposer une façon d'être, une façon de penser, on est coupable. Et vu que dans leur grille de pensée, Israël est un colonisateur, dominateur, dans une relation totalement asymétrique avec la Palestine, eh bien nécessairement Israël est coupable, ce qui inclut les femmes israéliennes.
Oui, c'est particulièrement désespérant, je pense encore plus pour vous, Sarah Baruch, de voir qu'en fait, il y a très peu de messages de solidarité ou d'humanité suite au massacre du 7 octobre qui viennent de cette partie des activistes.
Ah, mais pour moi, c'est totalement, au-delà d'être désolant, c'est révoltant. Enfin, je veux dire, des organisations censées veiller aux droits des femmes, comme nous toutes, comme la Fondation des femmes, au-delà même des écrivaines, qui, dans leur appel à la marche du 25 novembre, qui est la journée consacrée aux luttes contre les violences faites aux femmes, qui cette année est sous le signe de la lutte contre les violences sexuelles, que ces femmes-là ne dénoncent pas les viols qui ont été perpétrés par le Hamas sur des civils israéliennes, tout cela parce qu'elles étaient juives ou qu'on les pensait juives, parce que dans l'eau, malheureusement, il n'y a pas que des juifs non plus en Israël. C'est totalement aberrant, mais elles en sont incapables. On a beau leur envoyer des photos de femmes que l'on transporte à l'arrière de pick-up totalement désarticulées, sur lesquelles on crache, que l'on brandit comme des trophées de chasse, des femmes que l'on sort de voiture avec des pantalons tachés de sang. La couleur de la lutte contre les violences sexuelles. Je ne comprends pas cette dichotomie, en fait. Je ne comprends pas comment leur idéologie peut, à ce point, leur faire oublier leur humanité.
Oui, tout à fait. Alors, la semaine dernière, justement, Sarah, il y avait une tribune, et ce n'est pas la première fois, qui a été publiée par notamment des auteurs qui d'habitude sont amis, j'ai envie de dire, et qui sont dans ce combat féministe. Il n'y a aucune justification à leur position et pourtant le silence continue.
Ah, mais c'est-à-dire que c'est évidemment, elles ne se justifient pas, mais c'est pas comme si on les interpellait pas.
Oui.
On n'arrête pas de les interpeller, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en leur envoyant des lettres. Mais vous savez, c'est extrêmement grave ce qui se passe dans ces associations féministes. Moi, j'ai assisté à une réunion de préparation. Je n'étais pas censée y être, j'écoutais de la marche, justement. Alors, selon nous toutes, une femme noire qui meurt de féminicide, c'est plus grave qu'une femme blanche qui meurt. C'est-à-dire qu'on en arrive à un stade où tout ce qu'elles tentent de dénoncer, eh ben, le reproduisent. L'inégalité, le fait de juger les gens à travers leur race, à travers leur position dans la société. Moi, je croyais que le féminisme, c'était justement une voie féminine pour comprendre le monde, une voie peut-être plus de paix. Enfin, on n'arrête pas d'entendre des chiffres selon lesquels s'il y avait 50% de plus de femmes dans les milieux diplomatiques, 80% des guerres seraient évitées. Je me demande si ça s'applique avec ce genre d'individus.
Il y a pire que ça, parce que donc non seulement elles ne se sont pas insurgées par rapport ni au viol, ni aux assassinats, ni tout ce qui s'est passé dans les massacres du 7 octobre, mais en plus, il y a un certain nombre d'organisations et de militantes féministes qui ont en plus, évidemment, appelé à la fin du massacre à Gaza. Donc, c'est-à-dire que c'est pas comme si elles faisaient comme s'il ne se passait rien, c'est qu'en plus, elles donnent le feu vert à l'autre côté en n'appelant pas le Hamas comme terroriste, et en se disant militante de la libération de la cause palestinienne.
Tout à fait. C'est-à-dire que quand on les interpelle, elles finissent par apporter quelques modifications. Elles disent qu'elles sont du côté de toutes les victimes. Et puis, dans l'appel à la marche, par exemple, de nous toutes, il y a écrit « Nous sommes du côté de toutes les victimes et nous comprenons les effets dévastateurs de la colonisation sur les populations. » Et puis ensuite, elles affichent les données du ministère de la Santé du Hamas. Qui en soi est quand même une expression dont on peut rire, si on veut s'empêcher de pleurer, pour déplorer la situation des femmes palestiniennes déplacées. Ce qui est effectivement triste d'être déplacée. Cela dit, il y a 400 000 Israéliens qui sont déplacés aussi, parmi lesquels des femmes et parmi lesquels des femmes enceintes. Donc je ne comprends pas en fait où se situe l'intelligence quand on n'est pas capable d'apporter de la paix dans une situation. Et ce qui apporte de la paix, c'est de comprendre la complexité des deux côtés d'un conflit. Et là, en réalité, elles ne font qu'attiser la haine. Et je ne comprends pas quel est leur intérêt.
Non, je ne suis pas sûre que ça soit une question d'intérêt, mais peut-être que plus globalement, Sarah, et c'est sûr que là, je vous demande une position personnelle, mais est-ce que ce n'est pas l'échec d'une certaine gauche globalement? Parce que de la même manière, les militants antiracistes, que ce soit de la LICRA ou historiquement de SOS Racisme, on ne les a pas entendus non plus dans ce conflit et dans ces massacres du 7 octobre.
Mais vous savez déjà, le fait de considérer l'antisémitisme en dehors du racisme, c'est déjà une forme de racisme. En fait, le mot d'antisémitisme a été créé par la gauche au 19e, et c'était déjà un traitement de faveur pour les juifs. Enfin, c'est ironique quand je dis ça, hein, mais c'était un traitement spécial, on va dire. Donc, moi, ça m'arrive d'avoir des discussions avec ces personnes, lorsque je dis, mais enfin, vous vous rendez compte que déjà, en temps normal, les deux tiers des agressions racistes en France vont à l'encontre des juifs qui ne sont que 0,8% de la population, ça n'interpelle personne, mais parce qu'ils ne comprennent pas que les juifs peuvent être intégrés aux actes racistes. C'est-à-dire que pour eux, on est en dehors de tout. Et lorsqu'on leur dit, mais enfin, vous ne pouvez pas ne pas vous indigner devant une femme enceinte qu'on a éventrée vivante. Et alors là, ça, y a un moment de bug total. Ils disent, ils bottent en touche et ils répondent, non mais moi je serai toujours du côté des opprimés. Mais ils ont une lecture de l'oppression qui n'est pas forcément celle de la raison. Enfin, je veux dire, lorsqu'on vit depuis 80 ans sous une menace de guerre, sous une menace d'attentat, qu'il y a eu, lorsqu'on tape sur Internet, ne serait-ce que la chronologie des attentats en Israël, on nous annonce sur Wikipédia une liste non exhaustive de 500 attentats meurtriers à l'encontre de civils, donc des femmes, des enfants, des grands-parents, des personnes dans la rue, dans des bus. 500. Et on s'étonne que la paix soit difficile à construire dans un climat où finalement la confiance n'est pas possible. Et c'est quelque chose qui me désole à titre personnel, puisque moi je pense qu'un jour il faut qu'on y arrive, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Et ça demande énormément de courage, ça demande énormément d'espoir, et c'est pas facile de nourrir l'espoir en ce moment. Mais il faut que les gens apprennent à regarder une vérité pour tout ce qu'elle implique sur les civils. Enfin, je veux dire, par exemple, je vais vous donner un exemple débile, mais la chanson Manhattan Kaboul a eu un énorme succès. Parce que c'était une chanson de paix. Bon, ben, si elle s'était appelée Kaboul Kaboul, ça n'aurait pas marché. Ce qui fait que cette chanson est humaniste, c'est qu'elle voit une situation avec autant d'empathie et de compassion des deux côtés d'un conflit. et surtout des deux côtés de personnes qui sont elles-mêmes prises et prisonnières d'un conflit sans l'avoir choisi. Eh bien, le problème de ces féministes et de tous ces antiracistes borgnes, c'est que justement, ils s'empêchent d'apporter de la paix, mais parce qu'en fait, ils ne la veulent pas. Quand on s'empêche de regarder ce qui se passe des deux côtés d'une frontière en crise, c'est qu'on ne veut pas la paix.
Alors, ma dernière question, Sarah, juste, il y a un mois, donc juste avant, en fait, le 7 octobre, des femmes israéliennes et des femmes palestiniennes s'étaient rassemblées une fois de plus, j'ai envie de dire, elles étaient plusieurs centaines et elles avaient manifesté ensemble à Jérusalem et près de la Mer Morte pour la paix. C'était le 4 octobre, donc pour vous dire que c'était juste avant ces horribles massacres. Est-ce que vous avez l'impression que dans les conflits comme celui qu'on est en train de subir, malheureusement, les femmes sont peut-être plus à même de trouver, de tendre la main, voilà, pas de trouver une solution, mais de tendre la main à l'autre côté?
Alors, bon, je n'aime pas trop faire de généralité, j'ai envie de dire pas toutes les femmes. Ceci dit, nos civilisations, nos frontières, nos pays sont quand même le fruit de ce que l'on appelle la violence constructrice, qui est alimentée par une vision très masculine du monde et en tout cas une notion masculine telle qu'on la nourrit jusqu'ici. Enfin, je veux dire, derrière chaque homme violent, il y a eu une maman qui n'a peut-être pas donné toutes les ressources pour voir le monde de façon plus apaisée. En tout cas, le fait, nos langues, nos frontières, nos lois, si on regarde un peu en arrière, tout cela a été construit par le masculin dans un monde où il faut défendre par le combat. Ce qui n'est pas une attitude naturelle chez la plupart des femmes. C'est pas moi qui le dis, j'en ai parlé avec par exemple Boris Cyrulnik, qui expliquait que dès la petite enfance, les garçons avaient déjà une attitude au combat. Alors est-ce que c'est le transgénérationnel? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la biologie? Et ben, c'est peut-être un mélange de tout ça. Moi, je n'aime pas du tout ces discussions où on exclut la biologie de notre fonctionnement humain. Les hommes et les femmes ne sécrètent pas les mêmes hormones, ça ne donne pas les mêmes impulsions de vie, donc nécessairement, ça a une incidence sur le comportement. Après, on arrive à réfréner et à réguler comme on peut, mais c'est un fait. En tout cas, c'est très important de se dire que jusqu'ici, il n'y avait pas tellement de femmes pour prendre des décisions de déclencher des guerres ou pas. Il n'y a pas tellement de femmes dans les corps diplomatiques et il n'y a pas tellement de femmes qu'on écoute tout simplement au niveau de la société civile, parce que dans toutes ces sociétés qui sont sous le joug d'organisations terroristes ou de gouvernements tyranniques, tout simplement la femme, c'est le pion numéro un qu'on fait sauter. Donc on ne les écoute pas. Effectivement, je pense que il y a chez les mamans, chez les femmes en général, une forme de côté terrien et pragmatique qui est liée à la tâche qu'on leur a incombée jusqu'ici, de devoir nourrir, de devoir assurer les arrières, de devoir gérer le côté pratique. Et parce qu'elles sont dans ce côté pratique de la vie, elles sont moins dans l'idéologie. Donc, il y a peut-être plus de façons, je dirais, pragmatiques de construire la paix.
Merci beaucoup, Sarah Baruch, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes auteur de 125 et des milliers sur le sujet du féminicide. Merci pour votre franchise et d'avoir accepté d'être avec nous sur Radio Judaïka. Bonne journée à vous.
C'est toujours un plaisir. Au revoir, merci.